Toute l'info en trois lettres, RRB.
À partir de 3900 francs par jour seulement.
Et ce matin, nous recevons Jean-Gabriel Faget, le directeur général d'Enercal. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, alors que vous avez dressé le bilan de la consommation électrique en Nouvelle-Calédonie pour l'année 2024, mais aussi les perspectives pour la suite. Alors, sans surprise, l'année dernière, les indicateurs étaient à la baisse. C'est même inédit, une baisse de la consommation de cet ordre-là.
Absolument, la tendance n'aura étonné personne, mais c'est plutôt le volume qui est significatif, puisque c'est 40% de baisse de consommation, tous usages confondus, et c'est surtout la métallurgie qui a vu ses activités beaucoup baisser. L'arrêt de KNS, tout le monde le sait, des difficultés d'opération pour les deux autres métallurgistes. La distribution publique, elle, a baissé sur les derniers mois de l'année de façon assez stable de 7 à 8%, donc c'est significatif aussi.
Ah, donc c'est lié à des arrêts de contrat ?
C'est lié à un ralentissement global de l'économie, des destructions d'entreprises, des arrêts de contrats associés, aussi des gens qui ont quitté l'agglomération, qui consomment moins. Donc il y a effectivement plusieurs facteurs sur un fond de crise économique.
Et donc ça change la répartition. Aujourd'hui, la métallurgie représente une moins grande consommation dans la part globale ?
Absolument. Historiquement, la métallurgie pesait trois quarts des consommations calédoniennes. Aujourd'hui, c'est deux tiers. Écoutez, on espère que la métallurgie puisse redémarrer au plus vite.
La reprise de PRNC progressive et peut-être la montée en puissance de la SLN peut aider à faire repartir la métallurgie ?
Absolument. En tout cas, nous, on a étudié les conséquences des arrêts des métallurgistes sur le système électrique, sur nos obligations de livrer à nos clients une énergie stable et au meilleur coût. Et les arrêts de métallurgistes sont des facteurs qui nous compliquent la vie, qui augmentent les coûts très significativement. Donc nous, tous nos efforts sont orientés depuis plusieurs années vers la maîtrise des coûts pour la distribution publique et aussi d'apporter des solutions pour que les usines aient une énergie au meilleur coût et décarbonée, comme le souhaitent d'ailleurs les repreneurs aujourd'hui.
Alors justement, puisqu'on parle d'énergie décarbonée, le verdissement du mix se poursuit également, c'est ce qu'on note en 2024 ?
Absolument. C'est l'occasion de faire un retour sur les 10 années précédentes et notamment sur les effets du schéma de transition énergétique que le Congrès a voté en 2016, qui est quasiment achevé et qui aura fondamentalement modifié l'énergie des Calédoniens. Non pas de la métallurgie, dont le mix est resté stable, très fortement carboné à plus de 80%, mais pour la distribution publique, c'est un chamboulement considérable, puisque en 10 ans, on est passé de 90% d'énergie fossile à aujourd'hui un tiers. Donc c'est un effort qui a été réalisé pour investir dans le renouvelable, notamment le photovoltaïque. Et on a atteint aujourd'hui un niveau de décarbonation tout à fait significatif. On a divisé par 3 les émissions de dioxyde de carbone de la consommation des Calédoniens.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut aller plus loin sur ce schéma ?
Alors, si les consommations restent à tonnes, non, puisque aujourd'hui on a suffisamment d'électricité et il faudrait développer des moyens de stockage qui sont aujourd'hui malheureusement encore très onéreux pour pouvoir aller plus loin. Donc en l'état, non, mais tous nos efforts sont orientés pour qu'on apporte des solutions à la métallurgie. Évidemment, pas tout seul, mais c'est le moyen de relancer la filière et d'aller plus loin dans la décarbonation de l'électricité calédonienne.
Alors, vous parliez du stockage de l'énergie, on parle de batterie aujourd'hui, on parle aussi de STEP, ce sont les grands projets pour Enercal ?
Oui, au titre du schéma de transition de 2016, on attend avec impatience un investissement réalisé par un porteur de projet à Blue Paris, une grande batterie qui permettra d'optimiser les productions actuelles, puisqu'on a des excédents d'électricité aujourd'hui en journée, et cette batterie va les résorber. Donc ça, c'est un investissement qui est engagé, et il est très soutenu par le gouvernement et par le membre du gouvernement en charge de l'énergie, notamment parce qu'il est important pour la distribution publique.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on gaspille entre guillemets, de l'énergie solaire qui n'est pas consommée ?
Aujourd'hui, on a régulièrement des situations de production excédentaire et faute de consommation suffisamment élevée, on a effectivement une forme de gaspillage qui peut être évidemment résorbée dès la mise en service de cette batterie. Au-delà, et pour la métallurgie cette fois, on prépare depuis plusieurs années les solutions selon nous, mais ça a été confirmé par d'autres experts et notamment la Commission de régulation de l'énergie en France, les solutions, elles sont connues et c'est des centrales thermiques aménagées utilisant du gaz. C'est du photovoltaïque, puisque c'est aujourd'hui de loin l'énergie la moins chère, mais aussi du stockage, puisque le photovoltaïque, tout le monde le constate, ne produit que quelques heures par jour. Et le stockage, pour répondre à votre question, c'est effectivement à court terme les possibilités de mettre en œuvre des batteries sur des délais relativement courts, mais de façon beaucoup plus économique et durable, c'est le stockage hydroélectrique qui est parfaitement connu et que l'on a étudié en détail, notamment un projet qui est mature, qui est dérisqué et que l'on a proposé à la Nouvelle-Calédonie.
Et qui serait basé à Tontouta ?
Absolument, une station de transfert d'énergie par pompage, donc deux réservoirs d'eau. Et lorsqu'on a des excédents d'électricité, donc en milieu de journée, on utilise cette électricité pour faire tourner des pompes et remplir le réservoir supérieur. Et plus tard dans la journée, lorsqu'on a besoin d'électricité, au moment où le photovoltaïque voit sa production baisser, on utilise le réservoir supérieur comme un barrage classique et on turbine l'eau et on récupère l'énergie à la sortie des turbines. Donc ce sont des dispositifs parfaitement matures, mais qui nécessitent de la visibilité parce que ce sont des investissements très significatifs qui auront leur rentabilité dans la durée, ça c'est une certitude. Encore faut-il que les consommations soient aussi établies dans la durée.
On parle de 50 milliards environ ?
Oui, c'est le chiffre auquel on a abouti après 3 ans d'études, donc c'est un montant très significatif qu'il faut quand même ramener à la durée de vie de l'ouvrage, hein, plusieurs décennies évidemment, même plusieurs générations, un peu comme les grands barrages tels que celui d'IAT. Autre atout de ce genre d'investissement, c'est qu'il peut être un outil de relance, puisque 40% de ce montant est directement investi localement et contribuera au fonctionnement de beaucoup d'entreprises pendant la durée du chantier.
D'accord, donc là c'est pour vous l'État qui peut investir là-dessus, c'est ce que vous disiez lors d'une conférence de presse cette semaine ?
Oui, clairement, la capacité des industriels aujourd'hui, on la connaît, elle est limitée. Cela dit, dans la perspective que l'État avait dressée des besoins futurs de l'Europe et de la France, la production de nickel, c'est un atout pour les Calédonies et peut en ce sens être soutenue par la collectivité.
D'ailleurs, les 3 centrales au gaz prévues, les petites unités, seraient positionnées là où il y a des besoins pour les métallurgistes ?
Absolument. C'est aussi le résultat des études qui ont été menées ces dernières années. On connaît les solutions. Le gaz, le photovoltaïque et le stockage, elles sont disponibles. On est prêt à les mettre en œuvre pour poursuivre nos efforts de réduction des coûts de l'électricité pour les Calédoniens d'une part, c'est notre principale priorité depuis plusieurs années à travers des plans d'économie, à travers des plans de performance, et puis aussi évidemment garantir à la métallurgie une énergie décarbonée et à prix stable, à prix maîtrisé, puisqu'aujourd'hui ils sont très fortement dépendants des variations de combustible telles que celles qu'on a tous connues, nous aussi, pendant le début de la guerre en Ukraine, et ça a duré presque 3 ans.
Donc aujourd'hui vous appuyez toujours sur ce rapport de la CRE dont on parlait au moment du pacte nickel finalement, où il y avait une délégation qui était venue sur le territoire, ce sont toujours les études à jour ?
Oui, ce sont des études qu'on avait nous-mêmes menées, que la CRE a confirmées et qui ont fixé la feuille de route. Donc la feuille de route technique est connue, elle est chiffrée, elle établit à quel prix l'électricité, à la fois pour la distribution publique et surtout pour la métallurgie, serait disponible. Donc c'est sa mise en œuvre aujourd'hui qui doit être lancée.
Jean-Gabriel Faget, on doit parler aussi de la santé financière d'Enercal. Il y a eu des décisions prises l'année dernière. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le système électrique calédonien est rentable ? Parce qu'on sait qu'il y avait finalement un problème structurel au niveau du système électrique calédonien.
On a constaté sur 14 ans l'absence d'augmentation de tarifs, autrement dit la baisse des coûts. Et pendant ce temps-là, pourtant, il y a eu beaucoup d'augmentation de coûts chez tous les opérateurs. Enercal pèse 50% des coûts du système, donc on n'est pas les seuls acteurs. Il y a eu de l'inflation, il y a eu les combustibles qui ont fortement augmenté dans les années 2022-2024. Un investissement nécessaire dans la transition énergétique qui a aussi induit une augmentation des coûts de production. Et pendant toute cette période, malheureusement, le tarif n'a pas été adapté. Finalement, ça a creusé un déficit et une dette de la Nouvelle-Calédonie dans les comptes d'Enercal. Donc on a été très impacté. On continue d'ailleurs de l'être, parce que même si le texte de 2022 constitue une remise à niveau absolument indispensable et elle dresse des perspectives de retour à l'équilibre, on a encore deux années au moins de périodes compliquées avec une trésorerie fortement affectée par les déficits du passé.
Donc ce sont trois augmentations successives de l'ordre de 10%, mais aussi la promesse du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'apurer sa dette historique.
C'est le choix qu'a fait le législateur à travers le texte voté au Congrès au mois d'août, effectivement, de rattraper l'écart entre le tarif et les coûts réels qui sont encore une fois le résultat d'une vingtaine d'acteurs de ce secteur. Ce rattrapage a été effectivement programmé par le Congrès sur deux années à travers trois augmentations successives et aussi l'engagement, cette fois-ci ferme, que le budget de la Calédonie compensera les déficits. Donc c'est effectivement une mesure qui rassure nos prêteurs et qui nous permet de redémarrer une série d'investissements qui ont dû être décalés, notamment sur des actifs qui nécessitent beaucoup de maintenance. On a pris un petit peu de retard et ce financement va permettre de le résorber.
Vous parlez même de dette technique ?
Oui, c'est une terminologie qu'on utilise. Il y a une dette financière et derrière, quand on reporte des investissements, notamment de gros entretiens et de renouvellement d'équipements existants, on accumule aussi une dette technique.
Donc ça veut dire qu'on aurait pu aller vers des problèmes, des coupures sur le réseau. Aujourd'hui, ça c'est derrière nous, les risques de blackout, entre guillemets.
Alors, les blackouts peuvent avoir plusieurs origines, parfois des problèmes très, très ponctuels et très particuliers, comme on les a connus en janvier l'année dernière. Non, on a fait ce qu'il fallait pour ne jamais mettre en péril la sécurité et la sûreté des installations et évidemment pas en péril la qualité de fourniture à laquelle nos clients ont droit, évidemment.
Si on revient deux secondes sur la composante de stabilisation que le gouvernement devait payer à Enercal, il n'était pas contraint de la payer, c'est bien ça, et aujourd'hui le texte a été modifié pour contraindre le gouvernement à payer sa dette ?
Oui, c'est un élément un petit peu technique du texte d'origine de 2012 qui laissait la possibilité à la Nouvelle-Calédonie de payer ou pas la compensation à Enercal, qui tient les comptes de ce système, même si encore une fois on est acteur que de 50% des coûts. Le texte de 2024 a corrigé cette imperfection, en tout cas en faisant désormais obligation au budget de la Nouvelle-Calédonie. Donc ou bien le consommateur paye le vrai prix, ou bien c'est finalement le budget de la Nouvelle-Calédonie qui prend le relais.
Et donc c'est une ardoise qui se monte à combien ?
Elle a été accumulée, enfin les déficits du système et donc la dette de la Nouvelle-Calédonie dans nos comptes est établie à 20 milliards de francs et il est prévu que ce soit remboursé sur 5 ans d'ici 2029.
Donc aujourd'hui, même si la consommation reste à tonne, Enercal est sortie d'affaires, on peut le dire ?
On a la perspective de pouvoir retrouver un fonctionnement beaucoup plus normal que le fonctionnement de crise qu'on connaît depuis 3 ou 4 ans. Ça prendra encore du temps et tous nos efforts sont orientés pour la maîtrise des coûts. Il ne faudrait pas que les auditeurs considèrent que voilà, le problème est réglé, absolument pas. On restera durablement les acteurs des économies du système électrique.
Alors, on a parlé des grandes orientations sur le long terme avec ces batteries, ces steps, etc. Quels sont les grands projets pour 2025 ? Ce sera ma dernière question.
Alors, on fait tout pour faire aboutir le projet de batterie, puisque, comme j'expliquais, c'est un facteur d'économie pour le système électrique et de poursuite des investissements dans le photovoltaïque. Et ça, c'est très important. On a des projets comme le déploiement d'une nouvelle génération de compteurs, parce que, là encore, c'est une source d'économie, puisqu'il y a moins d'interventions de terrain, et puis une satisfaction de la clientèle à travers des factures sur index réel tous les mois. Donc ça, c'est aussi un projet. C'est des investissements, mais qui génèrent des économies dans des délais courts. On arrêtera la centrale de Népuy dans deux ans. Ça aussi, c'est une source d'économie pour le système, dès que la batterie de Blue Paris sera en service. Donc voilà, tous nos efforts sont orientés vers des plans d'économie, des plans de performance.
Merci beaucoup, Jean-Gabriel Faget.
Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Enercal. Une interview à retrouver en podcast sur notre site internet, le www.rrb.nc.